Un petit tour au jardin. Une émission présentée par l'association Jardin Nature Pibrac.
Bonjour et bienvenue pour ce 21e numéro de Un petit tour au jardin. Aujourd'hui, nous parlerons de la nourriture des plantes. Pour pousser et prospérer, les plantes ont besoin de se nourrir, c'est évident.
Les plantes d'aujourd'hui ont conservé des traces importantes de leurs ancêtres lointains qui étaient des algues et qui vivaient et se nourrissaient dans l'eau. Les plantes captent la lumière grâce à la chlorophylle et fabriquent des sucres à partir de l'eau contenue dans le sol et du gaz carbonique de l'air. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les plantes absorbent aussi des éléments dissous dans le sol qui sont nécessaires à leur développement. La matière fraîche végétale contient dans les plantes entre 70 et 90% d'eau.
Et quels sont ces éléments indispensables à la vie des plantes?
Les molécules d'eau et de gaz carbonique sont cassées et les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui sont libérés vont s'associer différemment pour fabriquer des sucres qui sont riches en carbone. Il faut noter que 96% de la matière sèche des plantes provient uniquement de ces atomes carbone, hydrogène, oxygène qui sont fournis par l'eau et l'air. Les plantes ont par contre beaucoup de difficultés à s'approprier l'azote dont elles ont besoin pour synthétiser les acides aminés. Elles passent par des bactéries anaérobies du sol qui fixent l'azote de l'air et les bactéries nitrifiantes qui le rendent assimilable en le transformant en nitrate.
Cependant, certaines plantes savent capter l'azote de l'air.
Eh oui, ce sont les fabacées, vous savez, les pois, les fèves, le trèfle, le lupin. Ils arrivent à faire une symbiose, il y a une symbiose qui s'établit entre la plante et ce qu'on appelle des rhizobactéries qui sont fixatrices d'azote. Ces bactéries, elles sont très nombreuses dans le sol et elles vivent dans des nodules qui se forment sur les racines. Et ceci permet d'alimenter directement les plantes en nitrate.
On ne compterait donc que 4 éléments à la base de toute vie?
Pas exactement. À ces 4 éléments s'ajoutent le phosphore, le soufre pour fabriquer les graisses et les molécules d'ADN et d'autres éléments métalliques, le fer, le potassium, le calcium, le magnésium et des tas d'oligo-éléments qui sont directement mis à disposition sous forme d'ions positifs par le complexe argilo-humique. Ces éléments sont des catalyseurs qui permettent que les transformations se réalisent à très basse énergie. On appelle complexe argilo-humique l'association entre l'argile, partie minérale du sol, et l'humus, la matière organique décomposée.
Les bactéries ont donc un rôle important.
Les plantes terrestres sont mycorhizées par des champignons dont l'un des rôles est de produire la glomaline, qui joue un rôle fondamental dans la fertilité des sols. Grâce aux mycorhizes et aux échanges de carbone organique, donc qui sont issus de la photosynthèse, ils fournissent à la plante de l'eau, des acides aminés, des vitamines, des antibiotiques, des hormones, des polyphosphates.
Et quelle est cette glomaline?
Alors cette glomaline, c'est une protéine qui est collante. C'est une glycoprotéine, c'est-à-dire une protéine avec du sucre, qui est produite en abondance par les filaments et les spores des champignons mycorhiziens qui sont présents dans le sol et sur les racines. Par son action de collage des particules du sol et de la matière organique, cette molécule stabilise le sol et garde le carbone dans le sol. Cela forme des agrégats qui sont stables et qui contribuent à la rétention de l'eau et des minéraux et qui permettent l'infiltration de l'eau et l'aération du sol.
Mais avant d'être agrégés, tous les éléments nutritifs doivent être mis à disposition.
Eh oui, et ça c'est le rôle essentiel de la faune du sol qui va dégrader toutes les matières organiques. La plupart de cette faune sont des animaux microscopiques, de quelques dixièmes de millimètre. Des protozoaires, des nématodes, des acariens. D'autres sont des animaux de quelques millimètres, les collemboles, les diplures, les pseudoscorpions. Et enfin, il y a un certain nombre de macrofaunes, qui sont les vers de terre, les mollusques et puis quelques araignées.
Il y a donc toute une vie et une chaîne alimentaire sous nos pieds.
Eh oui, toute cette faune va creuser, gratter, retourner la terre. Ce sont les espèces, selon les espèces, eh bien, ils mangent des débris végétaux, des racines, des petits fragments organiques. Ils se reproduisent, ils se mangent et puis ils se font manger.
Et les plus connus sont bien sûr les vers de terre.
Eh oui, les vers de terre. Alors vous savez, il y a 3 espèces de vers de terre qui n'ont pas toutes le même effet structurant sur le sol. Il y a d'abord les épigées, qui, comme leur nom l'indique, sont en surface. Ce sont des petits vers de 1 à 5 cm. Et ils vivent dans les premiers centimètres du sol et ils ne creusent pas de galeries, mais ils participent au brassage et surtout au fractionnement de la matière organique. Et puis il y a les anéciques, c'est les plus gros. Ceux-là, peuvent faire plus de 20 cm. Ils creusent des galeries verticales jusqu'à pas loin d'un mètre de profondeur. Ils transportent de la matière organique en profondeur et remontent de la matière minérale en surface. Après digestion, ils rejettent la matière organique sous forme de turricules. Vous savez, ces petites pyramides de terre que l'on retrouve parfois à la surface du sol sont des agrégats stables et cela rend la matière organique accessible aux racines des plantes. Il s'agit, en fait, ce sont de très bons laboureurs. Et enfin, la troisième espèce, ce sont ce qu'on appelle les endogées, qui sont de taille variable, qui font de 1 à 10 cm. Eux, ils creusent des galeries très ramifiées, qui sont plutôt horizontales. Et eux, leur intérêt, c'est qu'ils permettent la circulation des gaz, de l'eau. Et cela ne remonte jamais à la surface du sol.
Donc, nous avons sous nos pieds des champignons et toute une faune. Que faut-il faire pour les aider ?
Alors, ce qu'on va déjà essayer, c'est de ne pas retourner le sol pour éviter de détruire les réseaux de mycorhizes. Ensuite, on va utiliser des méthodes biologiques pour lutter contre les mauvaises herbes et tous les ravageurs, et puis utiliser des amendements organiques, tout ça au lieu de produits chimiques à mettre dans son jardin. On va effectuer des rotations et puis augmenter le nombre de variétés cultivées. Ça va favoriser la biodiversité. On va essayer de maintenir le sol toujours couvert, soit par un paillis, soit par des cultures intermédiaires. Et puis, assez simplement, on va conserver les racines de nos cultures en fin de saison pour servir d'hôte aux champignons utiles. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est nourrir le sol par un apport annuel de matière organique.
Et l'apport de matière organique, avec du compost ou avec du fumier ?
Alors, c'est deux objectifs différents. Les composts, eux, ne contiennent pratiquement que de l'azote organique qui doit être minéralisé pour devenir disponible en fait, aux plantes. Cette minéralisation, elle est réalisée par des bactéries qu'on appelle nitrificatis. Et c'est un processus qui demande de l'oxygène et par contre, il faut pour cela que le sol ne soit pas compacté. Par contre, les fumiers, eux, contiennent de l'azote minéral, principalement sous forme ammoniacale, qui est disponible directement pour les plantes. Et si le fumier n'est pas incorporé rapidement, par contre, la fraction ammoniacale se volatilise assez facilement dans l'atmosphère. Alors, pour simplifier, disons que le compost, ça va alimenter le sol avant d'alimenter les plantes, et le fumier va alimenter directement les plantes. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin des deux. Pour un résultat immédiat du fumier, pour assurer des récoltes sur long terme, le compost.
En conclusion, la fertilité des sols est liée à l'activité et à la vitalité de la faune et de la flore qui y vit.
Tout à fait. Le sol, c'est un peu la peau de la terre, et si le sol meurt, eh bien la terre s'asphyxie.
Des nouvelles de l'association Jardin Nature Pibrac ?
Eh bien, nous donnons rendez-vous sur notre site internet, jardinnaturepibrac.org, pour y retrouver toutes les dates de nos conférences et ateliers.
Merci.
Merci et à la semaine prochaine pour un autre petit tour au jardin.